صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous sommes en train de parler de certaines personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Et on s'est arrêté quand on parlait de Ja'far ibn Abi Talib. Je vous ai raconté un peu quelques histoires de Ja'far ibn Abi Talib et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le paradis. Ja'far faisait partie des premiers musulmans, radiyallahu anhu arda. Les premiers musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a chargé d'une mission. Quand les musulmans étaient persécutés à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux familles musulmanes de quitter la Mecque pour aller s'installer en Abyssinie. Et il leur a dit quelque chose d'important: allez en Abyssinie parce qu'il y a un roi chrétien juste. Vous voyez ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: il y a un roi chrétien juste, un homme juste, allez le voir et allez chez lui parce qu'il va vous accueillir. Et les musulmans sont partis là-bas. Et Quraysh, qu'est-ce qu'elle a fait? Quraysh, pour récupérer, ils ont envoyé deux émissaires, deux personnes qui connaissaient bien le roi de l'Abyssinie, qui le connaissaient bien. Et donc ces deux personnes sont parties pour dire au roi: ben, rends-nous ces familles parce que c'est des gens qui ont quitté leur religion et qui ont quitté la religion de leur peuple, et nous on veut les reprendre chez nous. Et donc le roi de l'Abyssinie n'était pas au courant de leur présence. Et quand les Mécois sont venus, ben, il les a tous convoqués. Quand il les a convoqués, ben, il leur a dit: ben, pourquoi vous êtes là? Ils lui ont expliqué. Et qui était le porte-parole des musulmans? C'était Ja'far ibn Abi Talib. Par le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far, c'est lui qui était le porte-parole des musulmans. Et là, le roi chrétien commence à discuter avec Ja'far et lui pose des questions sur sa religion. Et Ja'far, à chaque fois, il répond. Et généralement, il répondait avec le Coran al-Karim. Ce que le Coran dit, le Ja'far disait et le roi, à la fin, il a dit: entre notre religion et la vôtre, il n'y a qu'un trait qui est différent. Entre la religion musulmane et la religion chrétienne, il n'y a pas de différence. Pratiquement, pour lui, il a trouvé que les réponses que donnait Ja'far étaient complètement... Il lui a parlé de Isa, Jésus, alayhi salam. Il lui a parlé de Mariam. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, Amr ibn al-As, qui était l'émissaire des Quraishites, lui a dit, mais ils disent des choses mauvaises de Issa, ils disent des choses mauvaises de Maryam. Il lui a dit, donc récite-moi ce que dit le Coran de Maryam et de Issa. Et là, Ja'far, il connaissait la surat Maryam. Il connaissait la surat Maryam. Et il commence, Kaf haya ayn sad. Surat Maryam, il commence à réciter. Et là, les larmes, le roi, il avait les larmes aux yeux. En écoutant, par la traduction bien sûr, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait les larmes aux yeux quand il a su ce que le Coran dit de Maryam et de Isa alayhi salam. L'honneur, il y a Maryam, hein, Allah parle à Maryam pour lui dire qu'Allah t'a préféré aux femmes des mondes. Donc quand vous lisez surat Maryam, de temps en temps, imaginez que c'est un chrétien qui est en train d'écouter cette surat et comment l'islam valorise la personne de Isa alayhi salam, le prophète de Dieu, et Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Et donc Ja'far, il n'est pas revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam que après, imaginez, il est parti à peu près la quatrième année après la révélation, 4 ans après la révélation. Ils sont partis, 83 familles, toutes, ils sont partis en Abyssinie. Et Ja'far est revenu quand voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté pratiquement 12 ans en Abyssinie avec sa famille. Et quand est-ce qu'il est revenu? Il est revenu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de finir la bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar, c'est une bataille qui a eu lieu la 7e année pratiquement de l'Hijr. La 7e année de l'Hijr. C'est-à-dire que 7 ans après l'Hijr. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une parole qui nous montre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La adri bi ayyihima afrah » « Je ne sais pas par quel événement je dois être plus heureux. »« Abi qudumi Ja'far am bi fathi Khaybar » Abi qudumi Ja'far, est-ce l'arrivée de Ja'far, qui était pour lui un événement, parce qu'il l'aimait énormément. Il fait partie des... On l'appelle Ra'il Awwal, les gens sur qui tu peux compter. Des hommes qui ont joué un rôle très important dans la foi et dans la propagation de la foi musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne sais pas par quel événement je dois être plus heureux. Est-ce que par l'arrivée de Ja'far ou est-ce que par la conquête de Khaybar? La conquête de Khaybar quand même, c'est un événement très important. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arrivée de Ja'far était aussi un événement très très important. Et tout de suite après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année après, l'envoie comme le qa'id, le chef de l'armée musulmane dans la bataille de Mu'tah contre les Romains. La première bataille entre musulmans et romains, ça s'appelle Mu'tah. Et le musulman était très peu nombreux, 3000. Et les autres étaient pratiquement 10 fois plus. Et donc, Ja'far était le premier, c'était le premier chef de cette armée-là. Et il a été tué, comme je vous ai dit. On lui a coupé la main droite. Il portait le drapeau des musulmans. Il prend avec la main gauche. On lui coupe la main gauche. Il s'accapare du drapeau pour le garder, pour qu'il ne tombe pas. Et on l'a tué comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ra'aytu Ja'far ibn Abi Talib malakan yatiru fil jannati bi janahayn » C'était comme un ange. Le prophète nous parle de son, pas de son corps, de son âme. D'accord? Parce que nous, on est corps et âme. Le corps revient à la terre. D'accord? Quand on parle de après, le corps revient à la terre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'âme, des âmes des martyrs. Et notamment Ja'far, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu avec mes propres yeux Ja'far comme un ange qui vole au paradis. Bijanahin. Ja'far al-Tayyar, on appelle Ja'far al-Tayyar, celui qui vole. Donc Ja'far, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le paradis. On a un autre qui est Hamza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par At-Tabarani d'après Ibn Abbas, Dakhaltu al-Jannat al-Bariha. Je suis allé au paradis hier. Allah lui permet bien sûr de faire des visions. Et il dit, fanadartu fiha,
j'ai vu Faïda Ja'far yatiru ma'a al-malaïka. J'ai vu Ja'far voler avec les anges. Waïda Hamza muttaki'un ala sarir. Radiallahu anhu. Et j'ai vu Hamza. Hamza, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son frère de lait. C'était pas juste un oncle. C'était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était à peu près le même âge. Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient bébés au même moment. Donc c'était son frère de lait. Et aussi son oncle. Et Hamza, vous connaissez, Hamza c'est un homme très courageux. Et comment il est devenu musulman? Ben, c'est un jour il arrive à la Mecque et il entend que Abu Jahl il a humilié son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son frère. Et il arrive, c'est un homme courageux. Il arrive, il demande, il dit à Abu Jahl, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Et Abu Jahl commence encore à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hamza il le frappe devant tout le monde. Il lui dit, si tu veux, viens pour se battre, viens. Et il a dit, atadribuhu wa ana ala dini. Hamza il a dit une parole qui ne mesurait pas en réalité. Mais Allah l'a guidé comme ça. Il lui a dit, tu le frappes alors que je le suis, je suis du même avis que lui, je suis sa religion. Hamza, il n'était même pas musulman. Mais en disant cette parole-là, ben ça l'a engagé. Ben il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour devenir musulman vraiment. Subhanallah, parfois Allah guide les gens d'une manière où il a dit par fierté, comment tu le frappes alors que je suis avec lui. Et quand il a réfléchi, il dit, ah, ben c'est bon, il est devenu musulman comme ça. Mais après, bien sûr, Hamza, il est devenu vraiment musulman. Hein. C'est parmi les Asadullahi wa Rasul, le lion d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans disent que quand Hamza est devenu musulman, et Omar est devenu musulman, il y a deux personnes, quand les deux sont devenus musulmans, Hamza et Omar, ben les musulmans ne se cachaient plus. Avant, ils étaient persécutés, mais quand Hamza et Omar sont devenus musulmans, ben les musulmans étaient vraiment, vraiment dans une situation à l'aise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sayyid al-shuhada Hamza ibn Abd al-Muttalib » Sayyid al-shuhada, le meilleur, le maître des shuhada, des martyrs, c'est Hamza. Et dans un hadith, un autre, le même hadith, il dit « Wa rajulun » Et un homme qui s'est mis debout devant un gouverneur injuste et qui lui a dit « Tu ne dois pas faire ça » et il l'a tué. Ça c'est le deuxième. Vous savez, Hamza c'est une personne identifiée, d'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une autre personne. Mais ce n'est pas une seule personne, c'est des personnes qui vont oser dire à un roi qui est injuste, non, ou à un gouverneur qui est injuste, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bon. Et alors le roi il s'énerve, il le tue. Ça aussi c'est un martyr. Lui aussi c'est un martyr, lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith il dit Hamza wa rajulun, un homme qui se met debout devant un gouverneur injuste pour lui dire ce que tu fais est injuste. Il le tue, donc c'est un martyr aussi. L'autre personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Abdullah ibn Salam. Et Abdullah ibn Salam, il a une belle histoire parce que c'est un rabbin juif. Hada min ruhban al-yahud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abdullah ibn Salam ashiru ashratin fil jannah. Et Abdullah ibn Salam, c'est un rabbin juif. Il était à Médine. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il était chez lui, il a entendu les gens parler, dire qu'il allait arriver, il s'est dit, il était tranquille chez lui, il dit, Wallahi, je vais sortir pour voir cet homme qui prétend la prophétie. Parce que pour les juifs, le prophète doit être juif, comme eux. Et pour lui, il allait voir le menteur qui prétend la prophétie. Il sort de chez lui et il arrive devant la foule. Il dit, je vois deux visages, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous les deux sur leur chamelle. Ils arrivaient tous les deux. Et quand j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois, écoutez ce qu'il dit, hein. J'ai su, j'étais convaincu que ce visage-là ne peut pas être le visage d'un menteur. Subhanallah. Juste le visage, juste le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce visage-là n'est pas le visage d'un menteur. Subhanallah. Et Allah l'a guidé comme ça. Et après, c'est le visage, la vue du prophète. Et la deuxième chose, c'est, il a dit, les premières paroles que j'ai entendues sortir de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux gens, calmez-vous. Et il dit, ayyuhan nas, ufshu salam, wa at'imu at'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wa nasu niyam, tadkhulu al-jannata bi salam. Regardez les belles paroles. Les premières paroles, le prophète a prononcé son premier discours que Abdullah ibn Salam a entendu. Ayyuhan nas, ô homme, ufshu salam, répondez la paix et les salutations. Soyez accessible. D'accord ? Soyez accessible. Dites salam alaykum à tout le monde. Répondez salam. Et c'est peut-être la paix aussi, hein, pas uniquement la salutation. Ufshu salam, wa at'imu at'am, donnez la nourriture, nourrissez. Donnez, offrez la nourriture, donnez à manger aux gens. D'accord ? Et silul arham, maintenez les liens de parenté. Ne coupez pas les liens de parenté. Si tu as une personne avec qui tu as un lien de parenté, lien du sang, ben ne coupe pas les liens du sang. Hein ? Tu dois rendre visite, tu dois t'enquérir de la santé de ton oncle, de ton cousin, de ta cousine. Tu dois avoir. Sinat al-Rahim, c'est quelque chose de très important. Gardez les liens, ne coupez pas les liens de famille. Wassallu bil-layli wa nasu niyam. Priez quand les gens dorment. Priez quand les gens dorment. Hein, il y a les prières et les cinq prières. Mais quand tu pries quand les gens dorment, c'est-à-dire que tu donnes l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux être dans l'intimité tout seul, hein, alors que les gens dorment, chacun a ses préoccupations. Toi, tu as une préoccupation, c'est de prier. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tadkhulu al-jannata bi salam. Donc, vous allez aller au paradis en paix. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu musulman. Abdullah ibn Salam. Et ça me rappelle une autre histoire, quand je vous ai dit, quand il a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, ça concerne une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à l'extérieur de Médine. Et donc il y a une caravane qui arrive à l'extérieur de Médine. Ils ne sont pas encore entrés à Médine, mais donc ils voulaient se reposer pour que le lendemain, une caravane, des marchands, des gens qui vendent du blé, des choses comme ça, ils voulaient que le lendemain, ils vont au marché de Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu les voir pour acheter chez eux des choses. Pour acheter quelque chose. Donc il les a trouvés comme ça, il a dit, ah ben, vous vendez ça, ben moi j'achète maintenant si vous voulez. Mais par contre, il leur a dit, moi je veux ça, 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 du blé ou des choses comme ça, mais je n'ai pas d'argent, je vous paierai demain, à midi. Je vous enverrai l'argent demain à midi. Et on a dit, les gens, ils lui disent, non, on ne te connaît pas. Quand on te donne comme ça, demain à midi, n'importe qui peut nous dire demain à midi. Non, on ne te connaît pas. Tous les commerçants ont dit non, on ne veut pas te donner. Parmi ces gens-là, il y avait une femme qui était là-bas. Et elle avait l'air d'être une patronne. Et elle dit aux gens, donnez-lui ce qu'il veut, je me porte garante. Je garantis cet homme-là. Je garantis l'homme. Je suis garante de cet homme-là. Donnez-lui ce qu'il veut. Et on lui donne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend les choses et il s'en va. Il s'en va à midi, il amène les choses. Et sur le coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie avec Bilal, un des compagnons, du timbre. Parce que Médine, c'était connu par les dates. Il envoie, des centaines, des centaines de kilos de timbre. Avec Bilal, il lui dit, rejoins la caravane et tu leur donnes ce timbre. Et tu leur dis, prenez ce que vous voulez. C'est-à-dire le prix. Le prix, avant c'était comme ça. Avant les gens, il y avait beaucoup moins d'argent. L'argent c'était très rare. Et c'était du commerce, je te donne du blé, tu me donnes des dates, et je te donne ça, tu me donnes des habits. Donc le muqayada, ça s'appelle le troc. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé des dates, il leur a dit prenez ce que vous voulez jusqu'à que vous soyez quitte pour le prix de ce que j'ai acheté, mangez, mangez et distribuez le reste pour les gens de votre caravane. Et là, quand la caravane est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les gens, ils ont dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à payer, ils sont partis voir la femme indique. La femme qui était garante, on lui a dit, mais pourquoi tu étais porté garante? Personne, j'ai pas dit, personne ne savait que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne. Mais ces gens-là, ils ne savaient pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais on lui a posé la question, pourquoi tu étais porté garante? Elle a dit, j'ai vu son visage. Ah, je reviens au visage. J'ai vu son visage. Et je sais qu'un visage comme celui-là, c'est pas un visage de menteur. Subhanallah. Juste le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a vu. Elle dit, c'est pas un visage de menteur, c'est impossible. Et elle se porte garante pour de l'argent. Parce que son visage était un visage d'un homme digne de confiance, d'un homme véridique sallallahu alayhi wa sallam. Avant même de parler, avant même de dire quoi que ce soit, son visage parle. Avant. Donc c'est Abdullah ibn Salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promet le paradis. Zayd ibn Haritha, lui c'est pratiquement le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pratiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a élevé tout le temps, toute sa vie, parce que c'est un esclave. Mais c'était pas un vrai esclave, c'est-à-dire que des gens l'ont vendu comme esclave, mais lui. Son père le cherchait toujours. Il est arrivé à la Mecque. Et à la Mecque, il a été vendu. Khadija radiallahu anha. Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija l'a offert au prophète, a donné Zayd au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était comme son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait comme son enfant. C'était un petit garçon. Donc, mais son père et sa mère le cherchaient partout. Un jour, il est yéménite. Un jour, vous avez des pèlerins du Yémen qui sont venus à la Mecque, qui ont vu Zayd, ils l'ont vu. Mais les gens, ils étaient très visuels. Hein. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah, il ressemble à un tel, à son père. Il ressemble à son père, à la personne qui est au Yémen. Et quand ils sont revenus, ils lui ont dit, on a trouvé ton fils. Et on sait qu'il est à la Mecque. Va le chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Son père, son vrai père, Haritha, il s'appelait Haritha son frère, et il prend des cadeaux, il prend de l'argent, il prend des chameaux, et il s'en va pour aller à la Mecque, et il va discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, n'était pas prophète, il n'est pas encore devenu prophète, pas encore, il n'a pas encore 40 ans. Il discute avec lui, il dit à Muhammad, on connaît ta position, on connaît ta place au sein de ta famille, tu es un homme digne de confiance, hein, tout le monde t'aime à la Mecque, j'ai qu'une seule demande à te faire. Ibni Haritha. Haritha, c'est mon fils. Et je veux que tu me le libères et je te donne tout ce que tu as envie de prendre, les chameaux, l'argent, je veux récupérer mon fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je te fais une autre proposition. Je te fais une autre proposition. Je ne prendrai absolument rien de tout ce que tu as amené. Mais on va amener Zayd. Si Zayd veut venir avec toi, prends-le avec plaisir. Parce que le prophète aimait énormément Zayd. Il ne pouvait pas se détacher. Et Zayd aimait encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une relation comme son père. Et on appelle Zayd. Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as reconnu ces gens-là? Zayd dit oui. C'est mon père et c'est mon oncle. Hein? Ils sont venus te chercher, Yazid. Si tu veux repartir avec eux, ils partir au Yémen, chez toi, tu vas voir ta maman, tu vas voir. Il dit, Ya Rasulallah, depuis que je t'ai vu, depuis que j'ai vu. Il dit pas Ya Rasulallah, parce qu'il n'est pas encore prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Muhammad, depuis que je t'ai vu, depuis que je vis avec toi, je ne peux pas te quitter. Je ne veux pas partir. Je reste avec toi. Et ça, c'est avant même de devenir prophète, regardez son comportement. Je reste avec toi. Yazid, son père lui dit, qu'est-ce que tu tu préfères être esclave et rester. Le professeur Hassan lui dit, il n'est pas esclave, attention, il est libre. Et le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main de Zayd. Il se lève devant la Kaaba. Devant la Kaaba, il se lève, il prend Zayd, il prend la main de Zayd, il dit, Ayyuhan nas, oh homme, écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, Zayd, vous ne l'appelez plus Zayd ibn Haritha, appelez-le Zayd ibn Muhammad. À partir d'aujourd'hui, il lui change même de nom. Il lui donne son nom. Il lui dit Zayd ibn Muhammad. Alors que le prophète avait des enfants, Fatima, plusieurs, Abdullah, Qasim. Mais Zayd, il devient le fils de Muhammad, officiellement. Le prophète était touché par le. Zayd lui dit, je ne pars pas avec mon père, je vais. Alors que. Parce que le prophète lui a donné beaucoup, beaucoup plus qu'un père. Le prophète, il était à la fois un père, mais un compagnon. Il était pour lui un éducateur, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a tout donné. Et Zayd, il ne se sentait pas esclave avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète l'a libéré tout de suite. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a créé un lien de parenté, d'amitié, d'affection avec Zayd. Et Zayd, il a vécu tout le temps chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était son fils adoptif. Jusqu'à que l'islam par la suite interdit l'adoption plénière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renoncé à cela. Et Zayd, maintenant, il a dit, on l'appelle Zayd ibn Haritha, le nom de son père, et non pas Zayd ibn Muhammad. D'accord? Parce qu'en islam, on prend le nom de son père biologique. C'est comme ça. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il a. Et Zayd ibn Haritha faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a grandi avec les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd ibn Haritha est un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Zayd et aimait Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, c'était le fils de Zayd. C'est un grand compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Oussama le fait d'être le chef de l'armée musulmane à 17 ans. Vous imaginez? Il avait 17 ans, Oussama ibn Zayd, et il est le chef de l'armée musulmane. Le chef de l'armée musulmane. Avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, c'est toi qui vas guider, qui dois être le chef de cette armée-là pour faire une guerre. Et il est mort entre-temps, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort. Et donc l'armée musulmane n'a pas encore quitté Médine. Et le chef, c'était Oussama. Et Abu Bakr est devenu calife. Omar al-Khattab vient voir Abu Bakr al-Siddiq. Et Abu Bakr lui dit, ne laisse pas l'armée musulmane partir. Parce que tu sais qu'il y aura des troubles, il y aura des gens qui vont peut-être s'insurger contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ben, peut-être il y aura des tribus qui vont quitter l'islam. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Abu Bakr al-Siddiq, il était en colère contre Omar. Il dit, ah Omar, tu veux que j'arrête une décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prise? Tu veux que j'arrête quelque chose que le prophète a entamé? Jamais je ferai ça. Donc Omar il dit, donc change de chef. N'envoie pas, si Oussama c'est un jeune, n'envoie pas Oussama, mais quelqu'un de plus expérimenté, de plus. Il dit, ah Omar, oh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui lui a donné le. Qui l'a mis? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu veux que je change moi de chef alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Ah, il l'a convaincu, Omar, il a retiré sa proposition parce qu'il a compris que oui, le prophète a fait quelque chose et cette armée musulmane est partie. Et elle a fait la guerre et ils sont revenus avant de faire cette guerre, mais cette armée musulmane est bien partie. Donc, Zayd ibn Haritha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit de lui, Dakhaltu al-Jannah. دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت قالت لزيد بن حارثة. Je suis rentré au paradis et il y a une jeune femme qui m'accueille et je lui pose la question à qui tu appartiens? Elle me dit j'appartiens à Zayd ibn Haritha. Mon maître c'est Zayd ibn Haritha رضي الله عنه. Donc Zayd ibn Haritha, le prophète صلى الله عليه وسلم lui a promis le paradis. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو ابن نفيل درجتين 2 degrés au paradis. Et Zayd ibn Amr ibn Nufayl كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية. Regardez cet homme là n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Mais c'était un homme qui appelait les gens à la religion de Ibrahim. On appelle al-Hanafiyya. Hunafa. Hunafa ou al-Hanafiyya, c'est pas l'école Hanafite. Hein. L'école Hanafite, c'est bien, bien après. Mais al-Hanafiyya, quand on dit al-Hanafiyya, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Quand on parle de la religion de Ibrahim alayhi salam, on dit al-Hanafiyya. Donc, c'est pas l'école juridique, l'Ahnaf. Ça n'a rien à voir. Et celui-là, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait au marché des Arabes de la Mecque, alors que les Arabes de la Mecque ne croyaient pas au retour, ne croyaient pas à la vie après la mort. Elle croyait en Dieu, mais attribuait à Dieu des semblables. Ils adoraient des idoles à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient, on se rapproche, avec les idoles, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient en Dieu, mais en lui donnant des associés. Et il donnait plus de pouvoir aux associés que Allah lui-même. Il disait que Allah, oui, a créé le monde, mais c'est pas lui qui gère. Ça, c'est la foi des Quraishites avant l'islam. Il croyait en Dieu, l'unique. Hein, il est. Mais il a laissé la gestion de ce monde à des gens, à Hubal, à Manat, à des idoles. Et il disait, Hubal, c'est elle qui donne des enfants. Si tu lui donnes des enfants, c'est elle qui te donne. La pluie, c'est Manat. D'accord ? Ils ont distribué le pouvoir entre les idoles et donner à Dieu juste la création, tout simplement. Dieu a créé, oui, mais tout le reste, Dieu ne s'occupe de rien. Ça, c'est. Il y avait des gens qui croyaient en Dieu selon la religion d'Ibrahim, et parmi eux, Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Il a des paroles hein, c'est, dans certains livres, son discours, ses discours devant les gens dans les marchés. Comme j'aime à tabler, hein, ils vont aller voir. Ils vont appeler les gens, ils vont faire des... Hein, et lui, c'était ce qu'il faisait. Il se mettait comme ça debout devant les gens. « Ya Yohannas, comment vous adorez des idoles qui ne vous rapprochent pas de Dieu, qui n'ont aucun pouvoir. » D'accord ? Et après, il partait, parce qu'il n'était pas... Il n'avait pas le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils faisaient des choses, mais puisqu'ils n'étaient pas des prophètes. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait un message. C'est pour ça que le prophète est venu avec la religion de l'islam, et cette religion a été proposée aux gens, et Allah a guidé l'humanité à travers cette religion. Ce Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dakhaltu al-jannah fara'aytu li Zayd ibn Amr ibn Nufayl darajatayn » 2 degrés au paradis. Et ça montre que les gens qui avaient la foi avant même que l'islam arrive, ben c'est des gens qui sont sur le chemin. Les chrétiens, par exemple, qui croyaient en Allah, l'unique, comme Waraqa ibn Nawfal. Je vous ai raconté Waraqa ibn Nawfal, c'est un homme qui était chrétien. Les chrétiens, sur la voie de Isa alayhi salam, chrétiens qui croyaient en Allah, l'unique, ce n'est pas les chrétiens trinitaires qui disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, vous avez des chrétiens qui ont gardé la religion de Isa alayhi salam. Isa n'a jamais dit aux gens de m'adorer. Jamais. Et donc, vous avez des chrétiens qui ont gardé la vraie foi. Et ces gens-là existaient jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces gens-là, vous avez Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, hein, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message, la première fois, l'ange Gabriel, Khadija, elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main, et elle l'a amené chez son cousin. Son cousin, c'est Waraqa ibn Nawfal. Et c'était quelqu'un qui a lu l'Injil ou la Torah. Donc il lisait des anciennes écritures. Et il savait que c'est l'époque de l'apparition d'un prophète. Il le savait. Mais quand le prophète lui a raconté comment il a reçu le message, l'ange Gabriel, il lui dit, je savais, hein. Innahu namous, il lui dit, c'est le namous, c'est le... La règle, c'est la même manière avec laquelle Moussa a reçu son message. Hein? Il lui a décrit, en parlant de l'ange Gabriel, il lui a dit, oui, c'est comme ça. Mais je savais qu'il allait, que c'est le temps d'un prophète, mais je ne savais pas que c'était toi. Et je n'avais pas imaginé que c'était toi. Maintenant que tu me dis, oui, tu as toutes les caractéristiques d'un prophète. Il lui a dit, les gens vont te faire sortir de chez toi, de la Mecque. Voilà, Rabbanoufel dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils vont t'expulser de la Mecque. Et ça, c'était inimaginable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est la personne la plus aimée de la Mecque. Tout le monde le respecte. On l'appelle Sadr al-Amin. D'accord ? Et quand il a su qu'il allait être expulsé, ça l'a étonné. Il dit à Waraka, moi, on va m'expulser de la Mecque. La Mecque, j'ai passé 40 ans, tout le monde m'aime. Je suis même la personne la plus célèbre de la Mecque, la plus aimée par tout le monde. Moi, ils vont m'expulser. Il lui dit, oui, ils vont t'expulser. Et si je suis en vie ce jour-là, et si j'avais la force, parce qu'il était en fin de vie, en réalité, 3 jours après, il meurt. Voilà. Il dit, si j'étais jeune, je combattrais avec toi. Hein, je combattrais avec toi. Je te protégerais de leur Waraka ibn Nawfal. Et ce Waraka était aussi au paradis. Bien sûr, il est devenu musulman. Donc, même s'il est musulman que pour 3 jours, mais ça suffit, alhamdoulilah. Il a dit, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était croyant avant. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a cru en lui, alhamdoulilah. Donc c'est, il est encore plus que Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Parce que Zayd ibn Amr ibn Nufayl n'a jamais vu le prophète. Il n'est jamais devenu musulman. Mais il était croyant.
حارثة ابن النعمان كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قال حارثة ابن النعمان كذلك البر
un homme qui était lié au Coran, il lisait beaucoup le Coran, حارثة ابن النعمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est parti au paradis, il a entendu la voix de حارثة ابن النعمان, quelqu'un qui lit le Coran, il a dit il était au paradis. كذلكم البر voilà les gens purs. Bilal ibn Rabah est au paradis. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dakhaltu al-janna, je suis allé au paradis. Fasami'tu, quand le prophète nous dit je suis allé au paradis, bien sûr c'est des visions qu'Allah lui montre, d'accord? Et ce n'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète est en vie, mais Allah lui donne des visions comme tous les prophètes. Allah lui fait une révélation à travers des visions. Ça peut être un rêve, parce que les prophètes, comme Ibrahim alayhi salam, quand il a fait un rêve, et son rêve en réalité, c'est pas un rêve comme ça. Les rêves des prophètes sont al-wahi, sont des révélations. Et c'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, il a commencé à exécuter son rêve. Parce que si c'était juste un rêve comme ça, vous imaginez Ibrahim, il rêve juste un rêve comme ça, il va l'exécuter, il va sacrifier son fils? Non. Mais il savait que les rêves, c'est une règle là. Tous les rêves des prophètes, c'est une révélation. Les prophètes, quand ils sont devenus prophètes, tous leurs rêves, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dakhaltu al-janna, je suis allé au paradis, j'ai vu le paradis. Fasami'tu khashwatan bayna yaday, j'ai entendu un petit bruit. Faqultu ma hada? Qala hada Bilal yamshi. Au paradis, l'ange lui dit ça, c'est Bilal qui marche, amamak, il est devant toi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bilal, c'est Mu'adhin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui portait l'adhan parce qu'il avait une belle voix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette mission de faire l'adhan. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a jamais refait l'adhan. Hein? Quand il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il n'arrivait pas à finir cette phrase par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal n'a jamais fait l'adhan. Quand il est revenu à Médine une fois, parce qu'il a quitté Médine, il ne voulait pas voir les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Un jour il revient à Médine et on lui propose de faire l'adhan. Il commence à faire l'adhan et à Muhammad Rasulullah, il commence à pleurer. Il n'a même pas fait l'adhan. Il n'a même pas pu finir l'adhan. Bilal radiallahu anhu. Sayyiduna Bilal, on dit Sayyiduna Bilal, notre maître. Alors c'était un esclave. Mais un esclave qui a reçu le message, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur, beaucoup d'esclaves sont devenus musulmans. Parce qu'ils ont vu l'essence de la religion musulmane. Et Bilal, on l'a torturé comme d'une manière atroce. Et vous savez tous qu'est-ce qu'on lui a fait. On l'a frappé, on l'a mis carrément une grosse pierre sur sa poitrine qui peut tuer la personne. Bilal, alhamdoulilah, il était bien portant. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, cite, dis Hubal, dis Al-Lat, dis Al-Uzza, dis Manat. Ça, c'est les divinités de Quraysh. On nous frappait, mais prononce le nom d'une seule divinité et on arrête. Prononce. Et après, Bilal, qu'est-ce qu'il disait? Ahadun Ahad. Ahad. Ahad, Allah est unique. Et alhamdoulilah, Abu Bakr al-Siddiq, il vient, il consacre son argent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Umayya, Umayya c'est son propriétaire qui est en train de le torturer. Bilal lui a dit, mais je suis ton esclave, tu possèdes mon corps, mais mon esprit tu ne le possèdes pas. J'ai le droit d'être croyant, j'ai le droit d'être... Il lui a dit, non, je possède tout en toi, je possède ton esprit, je possède ton corps. Regardez la tyrannie. Donc, il l'a torturé. Et un jour, donc, Abu Bakr, il vient, il a consacré à Abu Bakr toute sa fortune. Il vient voir Umayya, il lui a dit, combien coûte Bilal? Et Umayya, il voulait profiter de l'occasion. Il a dit, 100 dinars, par exemple. D'accord? 100 dinars. Normalement, c'est 10 dinars. Mais il lui propose 100 dinars. Et Bilal, tout de suite, il sort 100 dinars. Il lui dit, tiens, il libère-le. Il devenait, à partir de ce jour-là, Bilal est devenu libre, musulman libre. Donc, il a acheté sa liberté. Abu Bakr n'a pas acheté Bilal pour qu'il soit son esclave. Non. Il a racheté la liberté de Bilal pour qu'il soit libre. D'accord? Et Umayya, Bilal disait... Abu Bakr dit à Umayya, même si tu as demandé 10 fois le prix, j'aurais payé. Déjà, il a demandé beaucoup plus cher que la norme, mais il lui a dit, même si tu avais demandé 10 fois le prix, j'aurais payé pour libérer Bilal, parce que Bilal est devenu un symbole, le symbole de la résistance contre la tyrannie de ces gens-là. Bilal, c'est un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup, souvent avec lui. C'est l'éducation du prophète. Bilal, radiallahu anhu. Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal. Et regardez comment l'islam a donné cette égalité. Aujourd'hui, tous les musulmans, quand ils parlent de Bilal, Sayyiduna Bilal, radiallahu anhu. Comme ça, il n'y a pas de... La fadla li arabiyin ala ajami, wa la li ajamiyin ala arabi illa bit taqwa. Il n'y a aucune préférence à un arabe par rapport à un autre. Et quelque chose de très important. Quand le prophète a conquis la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'heure de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à qui de faire l'Aden? À Bilal. Et il monte où? Sur la Kaaba. Et ça a tellement fait... Les Quraychites étaient en colère. Comment tu laisses quelqu'un... Un ex-esclave monter sur la Kaaba. Déjà, eux-mêmes, ils ne peuvent pas monter sur la Kaaba. Et comme le prophète Hassan lui a donné l'ordre, il lui dit, monte Bilal. Et vous avez des Abu Sufyan qui venait de devenir musulman. La foi n'a pas encore pénétré son cœur. Il a dit, j'aurais préféré mourir que d'assister à une scène comme ça. Vous voyez un peu la fierté. J'aurais préféré mourir que d'assister à une scène comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr al-Ghifari, un jour, il a osé. Abu Dharr, il est de Ghifar, c'est un arabe. Il dit à Bilal, il lui dit une parole blessante concernant sa couleur de peau. Il lui dit une parole blessante. Le fils de... Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a tellement énervé. Le fait de revenir alors que l'islam a tout ce genre de choses ne doivent pas exister entre musulmans. En tant que musulmans, on est tous frères, on est tous égaux. Bilal est meilleur que la moitié de... Bilal était beaucoup mieux que Abu Sufyan, alors que l'autre, c'est un homme célèbre, riche, noble. Et Bilal était beaucoup mieux que l'autre. Parce que c'est l'islam, c'est la foi, et c'est la piété qui fait... Inna akramakum indallahi atqakum. Et donc, quand Abu Dharr a dit cette parole, le prophète l'a regardé, il a dit, Abu Dharr, inna kamru'un fika jahiliya. Il dit, tu es un homme et tu as encore les traces de jahiliya. C'est quoi le jahiliya? C'est l'ignorance là, l'époque de l'ignorance. Jahiliya, c'est le paganisme. Tu gardes encore des traces. Tu n'as pas encore enlevé de ton cœur cette jahiliya qui est encore. Puisque tu as osé prononcer quelque chose comme ça, innaka mar'un fika jahiliya. Tu es un homme qui n'a pas encore réussi à se débarrasser de toutes les traces de l'ignorance et de l'jahiliya. Regardez comment le professeur Hassan l'a dit. Roujah, Abu Dharr, regardez ce qu'il a fait. Radiallahu anhu Abu Dharr. Il a mis sa tête sur la terre. Il a mis sa tête par terre. Il a dit à Bilal, écrase-moi avec ton pied. Écrase ma tête avec ton pied. Parce qu'il voulait vraiment sortir cette... C'est comme ça qu'on agit. Sortir cette jahiliya et cette arrogance de son cœur. Il a fait quelque chose que... Bilal m'a dit, jamais je ferai ça. Donc il mit sa tête par terre. Il lui dit, écrase-moi la tête avec ton pied. Mets ton pied sur ma tête, sur mon visage. Ça c'est symboliquement, c'est très... Mets ton pied sur mon visage pour que je puisse me débarrasser de cette... Bilal lui dit, le premier ami, il lui dit, debout, on n'a pas ça entre nous. Voilà. Vous voyez, Bilal, c'était un homme. Donc, Abu Dahdah, c'est un homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Abu Dahdah, son histoire, c'est quoi? C'est que il y avait un musulman ou un juif, je ne sais pas certain, qui avait...
Un orphelin.
Qui avait un palmier qui donne sur la maison d'un compagnon. D'accord? Et ce palmier-là, donc il y a des dates qui tombent chez le compagnon. Et le compagnon, donc, il mange de ces dates-là. Puisque ça tombe chez lui, donc il mange. Et l'autre, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre. Il lui a dit, prends mon risque. C'est à moi les dates. Il faut qu'il les ramasse, il les ramène. Il n'a pas à les manger. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit rien. Et il dit à l'homme, est-ce que tu peux le vendre? Est-ce que tu peux lui vendre au moins ce palmier-là? Et l'autre, il refuse. Il refuse de vendre le palmier. Et Abu Dahdah était là, présent. Il dit à l'homme, tu connais mon jardin? Regardez le... Non. Le professeur Hassan, il dit, Mani Ashtari, il dit, qui achète ce palmier et qui le donne à son frère, là, le compagnon, et je lui garantis le paradis.
Oui. Un palmier
au paradis.
Palmier,
ah oui, exactement. Je lui garantis un palmier au paradis sous lequel il peut marcher 200 ans. Sous ce palmier. Donc c'est un énorme palmier qu'il aura au paradis s'il achète ce palmier. Et que... D'abord, il a proposé au propriétaire. Il a dit, est-ce que tu peux lui donner ce palmier-là? Je te garantis. L'autre, il a dit, non, moi je veux mon palmier ici, non, c'est pas bon. c'était un musulman. Après, Abu Dahdah était présent, il voyait la scène. Il dit à l'autre, Abu Dahdah, il avait le meilleur jardin de Médine. La palmerie la plus célèbre, la plus belle de Médine, c'est Abu Dahdah qui l'avait. Il dit à l'autre, il a entendu la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à l'homme, tu connais mon jardin, ma palmerie là-bas? Il dit, ah bien sûr, hein. J'aimerais beaucoup avoir une comme ça. Il m'a dit, elle est à toi si tu me donnes ce palmier-là. Un palmier, il a acheté pas avec. Il m'a dit, bah, je te donne toute ma palmerie pour récupérer la tienne. Il m'a dit, c'est bon, c'est vendu. Donc, il a donné tout le jardin, il l'a donné au compagnon là, qui avait juste là. Un seul, il lui a donné tout. Il arrive, il a racheté. Il arrive devant sa femme et ses enfants étaient en train de jouer et de s'amuser dans leur jardin. C'est... Il dit, il y a Oum al-Dahdah. Lui, il s'appelle Abu al-Dahdah. Il y a Oum al-Dahdah. Vas-y, vas-y, vite, vite. C'est plus à nous. Hein? Ah, si c'était chez nous maintenant, la femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, hein? Elle lui a dit, sa femme, qu'est-ce que tu as fait? Elle lui a dit, j'ai vendu à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, un palmier. Un palmier au paradis, c'est garanti pour nous. Elle lui a dit, allez, elle a pris ses enfants, ses affaires, elle est sortie. Rabbi Halbeyu ya Abu al-Dahdah. Elle lui a dit, quel bon commerce. Tu es un bon commerçant. Tu es un bon commerçant, ya Abu al-Dahdah. Sa femme lui dit, et le prophète Hassan lui dit exactement la même chose. Parce qu'il a acheté. Et donc, cet homme-là, il est au paradis. Cet homme et sa femme sont au paradis. Et c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كم خبز صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الجنة يا أبو الدحداح سيلوي كي أدوني توت سا بالموري ببيروحا سابل بيروحا سون جاردان سابل بيروحا كوني أفضل بساتين المدينة le meilleur jardin à Médine il l'a donné et quand il a entendu من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Et donc il a. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui manage de la. Allah m'a fait de nous, ben on se trouve, ben on a un ibad qui s'en est. Allah m'a fait de la jannata ma'a l'abrar. Allah m'a fait de la jannata ma'a l'abrar. Allah m'a fait de la jannata ma'a l'abrar. Subhanahu wa ta'ala, rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalina wa rahmatullah.